15, du rapport qui existe entre les moyens nécessaires à la conservation de l'édifice étatique en général et la théorie ci-dessus développée. Fin du développement théorique. Chapitre 15, 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État, par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, traduit de l'allemand, par Henri Chrétien en 1867. Comme j'ai terminé maintenant, ce qui me restait à dire pour remplir le plan esquissé plus haut, j'ai dès lors répondu à la question posée aussi complètement et aussi exactement que mes forces m'ont permis de le faire. Je pourrais m'arrêter ici, si je ne devais encore aborder un sujet dont l'influence sur toutes les matières qui précèdent peut être considérable. Je veux parler des moyens qui non seulement rendent possible l'action de l'État, mais qui doivent encore lui garantir à lui-même son existence. Pour atteindre son but, si restreint qu'il soit, l'État doit avoir des revenus suffisants. Mon ignorance de tout ce qu'on appelle les finances me contraint ici d'être bref. D'ailleurs, ce point ne rentre pas nécessairement dans le plan que je me suis tracé. J'ai fait observer en commençant que je ne m'occupe point du cas où le but de l'État se mesure sur la quantité des moyens d'action, mais de celui où ces moyens se mesurent sur le but à atteindre, voyez chapitre 3, au commencement. La liaison des idées me conduit seulement à remarquer qu'en ce qui concerne les institutions financières, il ne faut pas plus qu'ailleurs négliger d'étudier le vrai but de l'homme dans la société, par suite de limiter celui de l'État. C'est ce que nous apprend assez le regard, même le plus superficiel, sur cette multitude de dispositions de police et de finances. Suivant moi, il y a pour l'État trois sortes de revenus, provenant un degré des propriétés qui lui appartenaient originairement ou de celles qu'il a acquises. 2 degrés des impôts directs, 3 degrés, et des impôts indirects. Toute propriété de l'État entraîne avec elle des inconvénients. J'ai déjà parlé ci-dessus, ch. 3, de la prépondérance qu'a toujours l'État comme État. S'il est propriétaire, il entrera nécessairement dans beaucoup de rapports privés. Par suite, dans les cas où le besoin, pour lequel seul, on désire la constitution d'un État, n'existe pas, le pouvoir se fera sentir néanmoins, bien qu'il n'ait été accepté qu'en vue de ce besoin. Certains inconvénients se rattachent aussi aux impôts indirects. L'expérience nous apprend quel nombre énorme de dispositions suppose l'organisation et la perception de ces impôts. Et certes, ce n'est pas dans les développements qui précèdent qu'on en trouvera la justification. Restent donc les seuls impôts directs. Parmi les systèmes possibles d'impôts directs, c'est évidemment celui des physiocrates qui est le plus simple. Seulement, on peut soulever contre lui une objection, souvent faite d'ailleurs. Ce système ne tient pas compte d'un des produits les plus naturels, de la force humaine, qui, dans ses effets, dans ses travaux, étant considéré par nos institutions comme une marchandise, doit nécessairement être soumise à l'impôt. Si l'on considère, non à tort, que le système des impôts directs auquel je reviens, est en réalité le plus mauvais et le plus inconvenant de tous les systèmes financiers, il ne faut pas oublier toutefois que l'État dont l'action est renfermée dans des limites si étroites, n'a nul besoin de gros revenus, et que, n'ayant aucun intérêt propre et distinct de celui des citoyens, sa sûreté la plus grande gît dans le secours d'une nation libre et à l'aise. C'est ce que nous enseigne l'expérience de tous les temps. Si l'organisation des finances peut apporter des obstacles à l'application des principes ci-dessus exposés, il en est de même, et plus encore, peut-être de l'organisation politique intérieure. Car il faut trouver moyen de relier les parties gouvernantes et gouvernées de la nation, d'assurer à la première la possession du pouvoir qui lui est confié, et à la seconde, la jouissance de la liberté qui lui reste. Dans les différents états, on a essayé d'atteindre ce but de manière diverse, tantôt en augmentant la force du gouvernement, ce qui est périlleux pour la liberté, tantôt en juxtaposant plusieurs pouvoirs opposés entre eux, tantôt en répandant parmi la nation un esprit favorable à la Constitution. Ce dernier moyen, si beau qu'il apparaisse parfois, surtout dans l'Antiquité, devient très aisément nuisible au progrès de l'originalité personnelle des citoyens. Il produit souvent l'uniformité. Par suite, il est mauvais, du moins dans le système que j'ai présenté. Le mieux serait de choisir une organisation politique, ayant sur le caractère des citoyens aussi peu que possible d'influence positive spéciale, et ne produisant en eux rien d'autre chose que le plus grand respect pour le droit d'autrui, uni à l'amour enthousiaste de leur propre liberté. Je n'essayerai pas de rechercher ici laquelle des organisations pourrait atteindre ce but. Cette recherche appartient évidemment à une théorie exclusivement politique. Je me contenterai de quelques courtes observations qui montreront du moins clairement la possibilité d'une semblable organisation. Le système que j'ai présenté renforce et multiplie l'intérêt privé des citoyens. Il semble donc qu'il affaiblisse l'intérêt public. Mais il relie si étroitement le second au premier, que celui-ci s'appuie sur celui-là. Tous les citoyens le reconnaîtront, puisqu'ils veulent posséder la liberté et la sûreté. Aussi ce système maintiendrait-il mieux que toute autre chose l'amour de la Constitution, que l'on s'efforce souvent en vain de produire par tant de moyens artificiels. Et puis il arrive que l'État qui veut moins agir a besoin de moins de puissance et, par suite, de moins de moyens de défense. Enfin, on comprend aisément que toutes les fois qu'il faudra sacrifier au résultat la force et la jouissance afin de les empêcher l'une et l'autre de décroître davantage, ce dernier système devra toujours être appliqué. Maintenant, j'ai répondu complètement, dans la mesure des forces qui m'ont été départies, à la question proposée. J'ai fixé de tous côtés à l'action de l'État les limites qui m'ont paru profitables et nécessaires. Cependant, je ne me suis jamais placé que du point de vue du plus grand avantage possible. Il pourrait être intéressant de se mettre maintenant au point de vue du droit. Mais, quand une société politique a réellement et librement déterminé un certain but et certaines bornes à l'action de l'État, ce but et ces bornes sont évidemment légitimes, pourvu qu'elles soient de telle nature que leur définition rentre dans le pouvoir de ceux qui l'ont formulé. Toutes les fois qu'une telle définition expresse n'existe pas, l'État doit naturellement chercher à refouler son action dans les limites que lui fixe la théorie pure et ne se préoccuper que des obstacles qui produiraient un plus grand inconvénient s'ils étaient négligés. La nation peut donc poursuivre l'application de cette théorie dans la mesure où ces obstacles ne rendent pas cette application impossible, mais jamais au-delà. Dans ce qui précède, je n'ai point parlé de ces obstacles. Jusqu'ici, je me suis borné à développer la théorie pure. En général, je me suis efforcé de rechercher la situation la plus avantageuse pour l'homme dans l'État. Elle m'a semblé consister en ce que l'individualité la plus variée, la personnalité la plus originale, soit ajoutée à l'union la plus diverse et la plus profonde de plusieurs hommes les uns vis-à-vis des autres, problème que la plus grande somme de liberté pourrait seule résoudre. Démontrer la possibilité d'une organisation étatique qui entraverait l'homme aussi peu qu'on l'imagine, tel est le but de ce travail, tel a été depuis longtemps l'objet de toutes mes réflexions. Je m'estimerai heureux si j'ai prouvé que ce principe doit être l'idéal du législateur dans toutes les dispositions qu'il édicte. L'histoire et la statistique, dirigées l'une et l'autre vers ce but, pourraient donner beaucoup d'éclaircissement à ces idées. La statistique m'a paru souvent avoir besoin d'une réforme générale. Au lieu de présenter des données de grandeur uniquement sur le nombre des habitants, sur la richesse, sur l'industrie d'un État, desquels il n'est jamais possible de déduire avec sûreté sa situation vraie. Elle devrait, en partant de la complexion naturelle du sol et des habitants, essayer d'indiquer l'étendue et le mode de leurs forces actives, passives et jouissantes, et faire voir peu à peu les modifications que ces forces reçoivent en partie des rapports des citoyens entre eux, en partie de la constitution de l'État. Car en effet, la constitution de l'État et l'union nationale, si étroitement qu'elles soient liées l'une à l'autre, ne doivent jamais être confondues. Sans doute, l'organisation sociale assigne aux citoyens, soit par la force et la contrainte, soit par la coutume et la loi, un rapport déterminé. Mais il en est encore un autre, librement choisi par eux, infiniment varié, et changeant souvent. Et c'est celui-ci, c'est la libre action du peuple sur lui-même, qui donne tous les biens dont le désir pousse les hommes à vivre en société. L'organisation de l'État, proprement dite, lui est subordonnée. Celle-ci est le moyen, l'autre est le but. On la prendra toujours comme un moyen nécessaire, et même comme un mal nécessaire, car elle est toujours liée à des restrictions de la liberté. Faire voir les conséquences fâcheuses que produit sur le bonheur, sur les facultés et sur le caractère des hommes la confusion de la libre action du peuple avec l'action imposée de l'État, tel était donc aussi le but secondaire de cette étude. C'était du rapport qui existe entre les moyens nécessaires à la conservation de l'édifice étatique en général et la théorie ci-dessus développée. Fin du développement théorique. Fin du chapitre 15.